Il avouerait même avoir tué le Seigneur.
Un procès plein de silence, de contradictions, d'énigmes et de stupidités. Les stupidités étaient les plus voyantes, et dans leur incompréhensibilité même, coïncidaient en règle générale avec les énigmes. En ces jours heureux, je croyais que la stupidité créait de l'énigme. L'autre soir, dans le périscope, je pensais que les énigmes les plus terribles, pour ne pas se révéler comme telles, prennent l'apparence de la folie. Mais à présent, je pense que le monde est une énigme bienveillante, que notre folie rend terrible car elle prétend l'interpréter selon sa propre vérité. Les Templiers étaient restés sans but. Autrement dit, ils avaient transformé les moyens en but. Ils administraient leurs immenses richesses. Normal qu'un monarque centralisateur comme Philippe le Bel les vit d'un mauvais œil. Comment pouvait-on tenir sous contrôle un ordre souverain? Le grand maître avait le rang d'un prince du sang. Il commandait une armée, il administrait un patrimoine foncier gigantesque, il était élu comme l'empereur, et il avait une autorité absolue. Le trésor français n'était pas dans les mains du roi, mais il était gardé dans le temple de Paris. Les Templiers étaient les dépositaires, les procureurs, les administrateurs du compte courant mis formellement au nom du roi. Ils encaissaient, payaient, jouaient sur les intérêts, se comportaient en grande banque privée, mais avec tous les privilèges et les franchises d'une banque d'État. Et le trésorier du roi était un Templier. Peut-on régner dans ces conditions-là? Si tu ne peux pas les battre, unis-toi à eux. Philippe demanda d'être fait Templier honoraire. Réponse négative. Offense dont un roi se souvient sans avoir à faire un nœud à son mouchoir. Alors, il suggéra au pape de fusionner Templiers et Hospitaliers et de mettre le nouvel ordre sous le contrôle d'un de ses fils. Le grand maître du temple, Jacques de Molay, arriva en grande pompe de Chypre, où désormais il résidait ainsi qu'un monarque en exil, et il présenta au pape un mémoire où il feignait d'analyser les avantages, mais en réalité, il mettait en relief les désavantages de la fusion. Sans pudeur, Molay observait, entre autres, que les Templiers étaient plus riches que les Hospitaliers, et que la fusion eût appauvri les uns pour enrichir les autres, ce qui aurait été un grave préjudice pour les âmes de ses chevaliers. Molay emporta cette première manche de la partie qui commençait. Le dossier fut archivé. Il ne restait que la calomnie. Et là, le roi avait beau jeu. Des bruits sur les Templiers, il en circulait depuis longtemps déjà. Comment devaient apparaître ces coloniaux, aux bons Français, qui les voyaient autour d'eux en train de recueillir des dîmes, sans rien donner en échange, pas même désormais leur sang de gardien du Saint-Sépulcre? Des Français, eux aussi, mais pas tout à fait, presque des pieds noirs. Autrement dit, comme on les appelait alors, des poulains. Ils allaient peut-être jusqu'à afficher des habitudes exotiques, qui sait si entre eux ils ne parlaient pas la langue des morts auxquels ils étaient accoutumés. C'étaient des moines, mais ils offraient le spectacle public de leurs usages rudes et gaillards. Et déjà, des années auparavant, le pape Innocent III avait été amené à écrire une bulle, De Insolentia Templariorum. Ils avaient fait vœu de pauvreté, mais ils se présentaient avec le faste d'une caste aristocratique, l'avidité des nouvelles classes mercantiles, l'effronterie d'un corps de mousquetaire. Il en faut peu pour passer aux rumeurs. Homosexuels, hérétiques, idolâtres qui adorent une tête barbue dont on ignore la provenance, mais elle ne vient certes pas du panthéon des bons croyants. Peut-être partagent-ils les secrets des Ismaéliens, ont-ils commerce avec les assassins du vieux de la montagne? Philippe et ses conseillers tirèrent en quelque sorte parti de ces racontars. Dans l'ombre de Philippe agissent ces âmes damnées, Marigny et Nogaret. Marigny est celui qui, à la fin, mettra la main sur le trésor du temple et l'administrera pour le compte du roi en attendant qu'il passe aux Hospitaliers, et on ne sait pas trop clairement qui jouirait des intérêts. Nogaret, garde des sceaux du roi, avait été en 1303 le stratège de l'incident d'Anagni, quand Sciarra Colonna flanqua des gifles à Boniface VIII. Et le pape en était mort d'humiliation en l'espace d'un mois. À un moment donné entre en scène certains Esquieux de Floiran. Il semble que, en prison pour des crimes imprécisés et au bord de la condamnation à la peine capitale, il rencontre un Templier renégat dans sa cellule, lui aussi en attente de la hare, et qu'il en recueille des confessions terribles. Floiran, en échange de la vie sauve et d'une bonne somme, vend tout ce qu'il sait. Ce qu'il sait est ce que maintenant tout le monde murmure. Mais voilà qu'on est passé des murmures à la déposition en instruction. Le roi communique les sensationnelles révélations de Floiran au pape, qui est à présent Clément V, celui qui a transporté le siège de la papauté à Avignon. Le pape y croit et n'y croit pas. Et puis, il sait qu'il n'est pas aisé de mettre le nez dans les affaires du temple. Mais en 1307, il consent à ouvrir une enquête officielle. Mollet en est informé, mais il se déclare tranquille. Il continue à participer aux côtés du roi, aux cérémonies officielles, prince entre les princes. Clément V fait durer les choses. Le roi soupçonne que le pape veut donner aux Templiers le temps de s'éclipser. Rien de plus faux. Les Templiers boivent et jurent dans leur commanderie sans rien savoir de tout ce qui se trame. Et c'est la première énigme. Le 14 septembre 1307, le roi envoie des messages scellés à tous les baillis et les sénéchaux du royaume, ordonnant l'arrestation en masse des Templiers et la confiscation de leurs biens. Entre l'envoi de l'ordre et l'arrestation qui a eu lieu le 13 octobre, un mois s'écoule. Les Templiers ne soupçonnent rien. Le matin de l'arrestation, ils tombent tous dans le filet et, autre énigme, ils se rendent sans coup férir. Et il faut noter qu'au cours des jours qui ont précédé, les officiers du roi, pour être sûrs que rien ne serait soustrait à la confiscation, avaient fait une manière de recensement du patrimoine du temple sur tout le territoire national avec des excuses administratives puériles. Et les Templiers, rien. Je vous en prie, y entrez, regardez où vous voulez, faites comme chez vous. Le pape, en apprenant l'arrestation, tente de protester, mais il est trop tard. Les commissaires royaux ont déjà commencé à les travailler de fer et de corde, et de nombreux chevaliers sous la torture se sont mis à avouer. À ce point, on ne peut que les passer aux inquisiteurs, qui n'utilisent pas encore le feu, mais il n'en faut pas tant. Ceux qui ont avoué confirment. Et c'est là le troisième mystère. Il est vrai qu'il y a eu torture, et vigoureuse. Si 36 chevaliers en meurent, mais parmi ces hommes de fer habitués à tenir tête aux Turcs cruels, aucun ne tient tête au bailli. À Paris, seuls 4 chevaliers sur 138 refusent d'avouer. Les autres avouent tous, y compris Jacques de Molay. Mais qu'avouent-ils ? Demanda Belbeau. Ils avouent exactement ce qui était déjà écrit dans l'ordre d'arrestation, avec de très rares variantes dans les dépositions, du moins en France et en Italie. Par contre, en Angleterre, où personne ne veut vraiment les poursuivre en justice, dans les dépositions apparaissent les accusations canoniques, mais attribuées à des témoins étrangers à l'ordre, qui ne parlent pas par oui-dire. Bref, les Templiers avouent seulement là où l'on veut qu'ils avouent et seulement ce qu'on veut qu'ils avouent.